Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Nous sommes lundi 10 janvier. Bonne journée. Bienvenue au 88,5 par ce matin froid qui laisse présager des heures assez froides, justement, possiblement jusqu'à mardi. Donc, je commence par ce matin avec un ciel qui est dégagé. C'est autour de moins 12 degrés. On prévoit du soleil. Ça, c'est la bonne nouvelle. Avec des vents qui sont légers, le maximum, je vous le disais, moins 10, mais avec le facteur éolien, ben, on peut ressentir facilement autour de moins 24 ce matin, moins 18 pour l'après-midi. Là où ça se gâte, ce soir et cette nuit, quelques nuages avec un minimum de moins 26. C'est ça, c'est pas le refroidissement éolien, là. C'est la lecture réelle avec des risques d'engelure durant la nuit et avec les vents et la combinaison de tout ça. On parle d'un refroidissement qui pourrait aller jusqu'à moins 38. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est probablement la région du Québec où le froid sera le plus intense. Pour ce qui est de demain, mardi, c'est du soleil avec un maximum le jour de moins 19. Encore là, c'est extrêmement froid. Et finalement, mercredi, on retourne à des valeurs moins agressives, autour de moins 4 degrés, avec aussi possiblement quelques flocons de neige. Bon, on va faire le tour ce matin du dossier COVID. Je vais essayer du mieux que je peux de vous résumer ça ce matin pour mettre sur la table les différents enjeux. D'abord, je pense qu'on peut dire qu'on connaît tous quelqu'un qui a été testé positif durant les dernières semaines. On sait que le variant se propage. Jusqu'à maintenant, les dommages sont pas trop graves dans le sens où il y a évidemment une augmentation du nombre de cas à l'hôpital. Mais compte tenu du nombre de gens qui sont touchés, le fait que c'est un variant qui se promène et qui contamine la communauté, c'est quand même, jusqu'à maintenant, relativement sous pression. Dans les projections, on prévoit donc que d'ici les 2-3 prochaines semaines, on va atteindre le sommet. Et c'est là que ça se gâte. Si pour la plupart des gens qui testent positif, c'est comme une grosse grippe, avec quelques symptômes, fièvre, tout, ça dure quelques jours. Il en demeure pas moins qu'il y a des gens qui se ramassent à l'hôpital, puis il y a des gens qui se ramassent aux soins intensifs. Donc, je regarde partout dans le réseau de la santé, les hôpitaux ont des éclosions, les reports de chirurgie sont décrétés. Radio-Canada dit ce matin qu'il y a 5 nouvelles régions du Québec qui basculent au niveau 4 du délestage. Et ce que je veux préciser, c'est l'impact direct que ça a sur vous. Parce qu'on peut se dire, là, c'est pas grave, les cas de COVID, puis plus ça va être répandu, mieux c'est. D'abord, les travailleurs de la santé sont épuisés parce que ça va faire 2 ans que ça dure. Paquet d'employés qui sont en congé forcé, déjà pénurie de main-d'œuvre, et donc les médecins sont obligés de faire des choix, des protocoles de tri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est chirurgie dite mineure, mais qui affecte votre qualité de vie, est reporté. Vous attendez pour une opération à un genou, vous allez attendre longtemps. Là où c'est encore plus grave, dans des cas de cancer, puis on va vous en faire la démonstration tantôt, normalement, après un diagnostic X, vous auriez dû avoir une chirurgie. Mais là, on n'est pas capable de vous opérer parce qu'il n'y a pas de lit disponible et on n'a pas non plus le personnel pour le faire. Donc, les cas COVID dans les hôpitaux monopolisent beaucoup, beaucoup de ressources. Et ça va s'accentuer dans les prochaines semaines. Puis je reçois des courriels de gens qui se sont fait annuler leur intervention, reporter à une date inconnue. Vous imaginez le stress quand t'as eu un diagnostic de cancer, puis on t'explique, ben regarde, on va te faire une chimio ou une radiothérapie en attendant parce qu'on peut pas t'opérer. On est rendu là. Puis là, on peut faire le procès historique du réseau de la santé puis dire que ça a toujours été ça. Moi, je regarde là, les nouvelles en Europe. Je regarde la France. Je regarde les États-Unis. Je regarde la Grande-Bretagne. Les pressions sur les réseaux de santé sont absolument incroyables. L'autre fois, là, j'écoutais Radio-Canada TVA, puis après ça, j'écoutais le journal de France 2, puis j'avais l'impression d'écouter les mêmes nouvelles. C'était quoi? Problème. D'abord, augmentation du nombre de cas, problème de dépistage, problème de tests rapides, pression sur le réseau de la santé. Alors, ça, c'est la première chose, je pense, qui est importante de dire concrètement. Et je veux me référer ce matin à Aaron Derfeld de Gazette, qui publie sur Twitter une liste de commentaires toujours extrêmement pertinents. Et il note l'augmentation des cas partout, partout, partout dans le monde. Et la carte, on le voit là, c'est des éclosions et une multiplication de nombre de cas. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait avec des patients qui occupent des lits après une chirurgie, des patients âgés? Là, mettez-vous en place du gouvernement. On a des gens, puis c'est un problème historique, là, mais qui a, je dirais, encore plus d'importance dans le contexte. Un homme de 82 ans se retrouve à l'hôpital, problème mineur, fracture. On le soigne, il n'a plus besoin d'être à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait avec? Mettons qu'il serait COVID, parce qu'il y a tellement de COVID dans les hôpitaux. Là, le CHSLD, la ressource pour personnes âgées, la résidence. Non, gardez-le, gardez-le. On n'en veut pas. Pas pour contaminer le monde. Puis là, le gouvernement hésite en disant, est-ce qu'on va répéter ce qu'on a fait dans la première vague, ce qui a entraîné le feu dans les centres au Québec et la mort de centaines et de milliers de personnes. Sauf que ces gens-là, qui n'ont plus besoin d'être à l'hôpital pour des soins actifs, occupent des places. Deuxièmement, Derfeld met en évidence ce qu'on appelle le phénomène de l'effet COVID à long terme, dont on parle, mais pas tant que ça. Et il y a notamment en Finlande, où le ministre dit que ça va devenir probablement une maladie chronique avec des effets à long terme de problèmes respiratoires, de fatigue. Ça commence à être un peu plus documenté. Et également, si on reste dans le réseau de la santé, c'est l'enjeu des non-vaccinés. Puis là, je veux pas tomber dans la chasse aux sorcières. Il y a des gens qui sont pas vaccinés, qui se retrouvent à l'hôpital. Puis là, sortez-moi pas tous vos tableaux, là. La réalité, si vous êtes pas vacciné, vous avez plus de chances de vous ramasser à l'hôpital que quelqu'un qui est vacciné deux fois, puis peut-être trois fois. C'est une réalité statistique. J'ai vu tellement de niaiseries sur les réseaux sociaux. Je vais me garder une petite gêne ce matin, mais c'est quand même ça la réalité. Oui, il y a des gens vaccinés qui se ramassent à l'hôpital. Quand Raymond Malenfant meurt à 91 ans après 17 infarctus sur un cancer puis qu'on apprend qu'il y a la COVID, on s'entend, là, il était en fin de vie. Mais quelqu'un qui n'est pas vacciné a une chance, des chances plus élevées de se ramasser à l'hôpital. Et là, qu'est-ce que Québec va faire? Puis sérieusement, là, j'ai suivi comme vous les mesures dans le temps des fêtes. Moi, je pense que le couvre-feu, c'est carrément inutile puis ça a une valeur symbolique qui, moi, me dérange. Mettre un couvre-feu, restreindre les déplacements des gens, il faut que tu aies une maudite bonne raison. Et on ne m'a pas convaincu de ça. Et surtout pas en janvier, on s'entend que les déplacements ne sont pas si significatifs. Mais je trouve qu'il y a une valeur symbolique, puis on dit aux gens, tu n'as pas le droit de sortir de chez vous après 10 heures le soir, ça m'achale. Puis je pense que ça ne donne pas vraiment de résultats. En tout cas, ils ne l'ont pas démontré. Et deuxièmement, d'attendre jusqu'au 18 pour restreindre l'accès à la Société des alcools du Québec. Come on, là. C'est une farce. Et ça change quoi? Quelqu'un qui veut s'acheter du pot va s'en trouver. Quelqu'un qui veut de l'alcool va commander en ligne, va trouver quelqu'un qui va... C'est pas une mesure. Puis là, les commerçants veulent pas gérer ça non plus. Alors, je réfère encore à Derfeld qui nous donne quelques exemples. Et la question, c'est qu'est-ce que le Québec va faire si on veut vraiment aller vers une forme de vaccination pas obligatoire au sens où on te prend le bras puis on te pique, mais on te met tellement d'obstacles d'embûches que tu n'auras pas le choix, ben on donne l'exemple de la Grèce où les gens de 60 ans et plus qui ne sont pas vaccinés ont une amende mensuelle d'une centaine d'euros Et il y a l'Autriche qui envisage aussi des amendes pour les gens, une espèce de facture additionnelle pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Puis, je comprends que il y a des gens qui ne sont pas vaccinés dans plusieurs catégories. Vous avez des gens qui sont plus ou moins formés. À Montréal, la barrière de la langue, la culture, il y a des croyances religieuses, tout ça peut être considéré. Puis il y a un noyau de gens qui ne veulent pas, qui carburent. Et juste, Richard, on va entendre cet employé d'un Super C, c'était Chicoutimi, je pense, mais en tout cas, qui, disons, s'accroche avec un client qui lui dit de faire ses recherches puis qui l'insulte. Puis je rappelle, là, c'est pas la propriétaire du magasin, c'est une employée qui fait sa job, mais elle a du caractère.
Non, Marie, t'as pressé, t'es fine. Prends ça en coupe, arrête de mettre ta pression. Hey, stop! On sortit,
t'es
en arrête.
Non,
tu m'as
pas
fait
ça.
Je te donne des gens.
Stop!
Arrête de mettre ta pression sur les gens.
Stop!
Stop!
Stop! Stop!
Hein? Ça s'appelle avoir du caractère. Et tous ces militants-là. Puis j'ai reçu un courriel en fin de semaine, puis la personne ne veut pas parler à l'antenne parce qu'elle a déjà eu assez de troubles, mais visité par notre fameux militant, celui qui collectionne les tickets et pour qui il n'arrive jamais rien, là, je veux même pas le nommer, ben, il est allé dans une boulangerie, on lui a demandé de porter le masque, il n'a pas voulu, il a mis ça sur les réseaux sociaux, et là, les militants se sont fait aller, ont écœuré le propriétaire, les propriétaires de cette petite pâtisserie boulangerie. Je trouve ça dégueulasse. Et sérieusement, j'ai aucune forme d'empathie pour les gens qui se comportent de cette façon-là. Et je vous le dis, je veux pas partir un débat vax-anti-vax, mais il y a une réflexion à faire quand même sur la réalité. L'autre dossier, d'autre volet extrêmement important, c'est l'école. La rentrée scolaire en présentiel pour le primaire et le secondaire, officiellement, c'est lundi prochain. Il y a des provinces, je pense à la Colombie-Britannique, l'Alberta, où le retour se fait aujourd'hui, présentiel. Je sais que les parents ont tout un casse-tête à gérer. Et sérieusement, là, si j'ai une pensée plus précise ce matin, ce sont pour les jeunes familles québécoises qui doivent conjuguer avec le télétravail, conjuguer avec actuellement l'école à distance. Troisièmement, des cas de COVID à la garderie puis les fameuses règles ont changé. C'est assez compliqué de s'y retrouver. Et ça veut dire qu'encore cette semaine, donc, faut gérer le téléenseignement. C'est pas facile, là, pour des jeunes familles. Mettez deux enfants, un qui est au primaire, mettons, l'autre est au CPE, puis là, vous avez des cas d'éclosion. Puis là, vous écoutez le ministre Jean-François Roberge nous expliquer que les écoles sont sécuritaires au Québec. Pour vous dire une chose, je lisais dans le Globe and Mail un fameux résumé sur les masques N95. OK? C'est vrai que la communauté scientifique s'entend pas. Plusieurs experts, cités par le Globe and Mail, disent c'est meilleur comme protection que le masque régulier. Puis d'autres qui disent, ouais, mais pas tant que ça. Puis il y a une différence de prix. C'est trois fois plus cher un masque N95 qu'un autre. Donc, sérieusement, là, si le gouvernement du Québec dit que l'école, c'est important de garder les enfants en classe puis de garder les parents, disons, avec un peu plus de souplesse à pas avoir à gérer des cas de COVID, pourquoi vous donnez pas des masques N95 aux profs? Ils veulent les masques. Puis quand j'entends le docteur Arruda dire « Ouais, mais c'est comme la ventilation si les appareils sont mal installés. » C'est quoi ce raisonnement-là? Installer des appareils correctement, donner des masques aux profs, parce que c'est clair qu'on va se retrouver avec le retour en classe, avec un paquet de cas additionnels. Puis ça va venir créer une pression sur le réseau de la santé, comme je l'ai mentionné tantôt. Alors, c'est un peu ça le portrait. On va essayer de pas être dans la grisaille toute la matinée, mais je pense que c'est important de, comme on dit, mettre les cartes sur la table ce matin. Et l'enquête du coroner, la coroner Guéane Kamel, qui se poursuit, ça reprend aujourd'hui. Et dans les prochains jours, on a hâte d'entendre le témoignage de Marguerite Blais, qui était ministre responsable des aînés au moment de la première vague, évidemment de l'hécatombe dans les centres de soins de longue durée. Dans les autres nouvelles ce matin, la presse nous parle de ce fameux site ou appareil, en fait logiciel, pour traquer en direct des pédophiles. Et il y a 4000 pédos au Québec qui se partagent des images d'enfants agressés sexuellement. C'est dans la presse. Gabriel Duchesne et Caroline Touzet. Et ce qu'on remarque, évidemment, c'est qu'il y a une activité. Et en période de pandémie, en période où les gens passent beaucoup de temps devant les écrans, ben c'est sûr qu'il y a des prédateurs qui se promènent, des gens de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, et qui vont traquer des jeunes filles, des jeunes garçons, puis qui vont essayer d'obtenir du matériel. Je l'ai vu, ce logiciel, en action, où on voit les adresses IP qui flashent et les gens se connectent. C'est le matin, c'est la nuit, c'est l'après-midi, c'est en tout temps. Et la police, c'est tout un job faire ça. Pour parler aux gens qui travaillent sur ces escouades, c'est d'abord, vous imaginez, là, traquer ce genre d'individu, de voir la preuve, d'examiner les photos et se rappeler que ce sont des enfants qui ont été abusés, parfois par un parent, parfois par un inconnu, mais ça devient du matériel que des pédophiles s'échangent. Je pourrais vous en parler longtemps. Donc, vous lirez ça dans la presse ce matin. On revient également sur l'incendie à New York, alors qu'il y a 19 personnes qui ont été tuées dans le Bronx. C'est un immeuble à appartement. Et tout indique que c'est un appareil de chauffage d'appoint qui aurait mal fonctionné. Et ce qu'on remarque, c'est que la plupart des gens qui sont décédés, et on parle de 9 enfants là, parmi les victimes, surtout à cause de la fumée qui est extrêmement dense. Des flammes, évidemment. Mais donc, au total, il y a 44 personnes qui ont été blessées et il y en a 13 qui ont été plus grièvement touchées, qui occupaient le troisième étage du bâtiment, et c'est à cet endroit que le feu a pris naissance. On va en reparler avec Richard Châteauvert, mais je sais que c'est un immeuble où souvent les familles se sont comme relayées l'appartement, c'est-à-dire que les grands-parents ont vécu là, les parents ont vécu, puis les enfants sont parmi la génération suivante à occuper le logement. Le Journal de Montréal s'intéresse au projet de baseball. Paraît qu'on devrait avoir des détails dans les prochains jours. Et c'est surtout sur l'implication de Stéphane Crétier, qui est le président de Garda, qu'on a toujours présenté comme étant un des milliardaires montréalais intéressés par le baseball. Et là, il prétend que non, alors que le Journal de Montréal pose des questions sur son statut fiscal. Parce que M. Crétier, officiellement, vit à Dubaï et réside aux Émirats arabes, mais il semble que Revenu Québec se pose des questions pour connaître son véritable lieu de résidence. Est-ce qu'il paye des impôts au Québec? Ça n'a pas l'air. Et dans un contexte où vous avez des gens d'affaires qui veulent une aide publique, ben c'est sûr que ça devient comme un enjeu. Et officiellement, M. Crétier dit « Non, moi, j'ai pas l'intention d'investir. Je suis un partisan du baseball. » Donc, il se dissocie comme tel du projet. Ça fait pas mal le tour de nos manchettes.
L'essentiel de Paul Arcan.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que le réseau de la santé au Québec est sous une énorme pression avec l'explosion du nombre de cas, bien sûr, mais surtout des hospitalisations. On est rendu à quoi? 2400, 2500 personnes hospitalisées. Évidemment, des centaines de patients aux soins intensifs, et on le voit partout à travers le Québec, des opérations de délestage, donc des gens qui ne seront pas opérés, des gens qui attendent, et même dans certains cas, ce sont des choix extrêmement difficiles, vous allez comprendre pourquoi. On fait le point avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcan.
D'abord, j'ai envie de vous demander, là, avez-vous les chiffres à frais ce matin sur le nombre de patients hospitalisés COVID dans les hôpitaux du Québec?
Oui, bien écoutez, vous venez de le dire, là, 2500, puis il va s'en rajouter encore un petit peu plus que 118, 120 aujourd'hui, là. avec les données d'hier.
OK. Ce matin, Radio-Canada dit qu'il y a 5 nouvelles régions du Québec qui basculent au niveau 4 du délestage. Donc, ça aussi, c'est vrai?
Oui, tout à fait.
Et le niveau 4 de délestage, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire qu'on est rendu moins de 50 % des opérations. Ça va dépendre de certaines régions, mais ça veut dire qu'on opère entre 20 à 50 % de ce qu'on devrait faire là, comparé à 100 %. Ça veut dire que c'est un niveau de délestage très élevé.
Ça veut dire qu'on ne parle pas juste de chirurgie, exemple, genou, cataracte. Là. On parle aussi de chirurgie plus grave.
Tout ce qui reste, c'est les chirurgies urgentes. Là. Quand on est rendu à 80 % de délestage, ce qui reste, c'est des chirurgies urgentes.
OK. Est-ce que je comprends aussi que ça veut dire que, par exemple, pour des cas de cancer, on est obligé de renoncer à une chirurgie qui serait le plan A pour faire des traitements de radio ou de chimiothérapie comme plan B?
Non, je pense que je vais vous dire dans la plupart des cas, parce que je suis en train de vous dire, M. Arcan, que dans certaines régions, c'est pire que d'autres. Mais au niveau des opérations, par exemple pour le cancer, etc., ça continue de se faire. Ça, c'est dans le 20-25 % qu'on ne touche pas. Mais dans les cas, par exemple, comme vous m'avez dit, que ce soit une cataracte ou une opération du genou, ça, c'est sûr que malheureusement, c'est ça qu'on doit retarder. Puis je dis malheureusement, c'est pas un choix, mais on est rendu là.
Ouais. Moi, j'entends qu'il y a des cas même de cancer dont les chirurgies sont repoussées parce qu'on peut pas garder le patient à l'hôpital, parce qu'on n'a pas de lit, puis on peut pas le garder. Donc, plutôt que de l'opérer, on lui propose une solution B.
Ben écoutez, il y a peut-être quelques cas, M. Arcan, mais ce que je vous dis dans l'ensemble, c'est d'ailleurs pour ça là, qu'on est rendu en ce moment, et vous l'avez vu, il y a eu quelques articles aussi, qu'on est obligé de reprendre des patients qui sont à l'hôpital, qui ont été traités, soit pour COVID ou pour d'autres opérations, et là, de les retourner, même, mais on n'a pas la place dans les hôpitaux. Alors, pour justement libérer nos lits, le peu de lits qu'on a, avec le personnel qu'on a, ben, on est obligé de sortir ces gens-là. Alors, donc, pour justement éviter d'enlever des opérations qui sont urgentes, comme celles que vous venez de me décrire.
OK. Juste pour que ça soit encore plus clair, dans ce qu'on appelle les protocoles, là, vous me parlez du niveau 4 de délestage, est-ce que le statut vaccinal du patient est considéré?
Pas du tout.
Ce qui fait qu'on soit vacciné, pas vacciné, c'est le même résultat?
Pas du tout. C'est le même résultat.
Est-ce que ça peut changer?
Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ça, c'est une autre chose, c'est un débat de société. Là. Mais la vaccination n'est pas un élément de décision.
OK. L'autre question... est-ce que je comprends que les projections vous laissent entrevoir 2 semaines à venir, peut-être 3, l'extrêmement difficile, avec ce qu'on appelle un sommet là, autour du 20 janvier?
Oui, tout à fait. Remarquez, les prévisions, les dernières prévisions qu'on a reçues de l'INES, là, la seule bonne nouvelle, c'est qu'on est exactement où ils nous avaient dit qu'on serait. Ils avaient dit que vers le 10-11 janvier, on serait à environ 2500 hospitalisations. On est exactement là. Alors donc, c'est pour ça que, et ça, ces prévisions-là ont été à peu près les mêmes entre le 28 décembre et celles qu'on a reçues la semaine dernière, le 5 janvier. Donc, on est exactement où on pensait. Et c'est ça qui nous a fait, entre autres, faire les mesures excessivement difficiles qu'on a annoncées le 30 décembre.
Je ne sais pas si vous le ressentez comme beaucoup de gens le ressentent, mais il y a comme une espèce de décrochage qui est en train de se faire et qui, je dirais, dure depuis quelques jours, peut-être quelques semaines. Là. Les gens ne comprennent pas pourquoi vous avez imposé un couvre-feu qui pénalise, on va se le dire, les vaccinés, les non-vaccinés, mais les vaccinés qui veulent sortir à 10 heures le soir. Vous dites on ferme les épiceries le dimanche, alors que pour beaucoup de propriétaires, c'était une bonne journée, puis pour beaucoup de gens, c'était pratique. Il n'y a pas de rassemblement. Puis on se dit, en quoi ces mesures-là ont vraiment un effet? Êtes-vous bien certain, vous, que le couvre-feu donne des résultats puis que de fermer les épiceries le dimanche, il y a moins de cas de COVID?
OK. Je vais prendre votre question en deux. La plus facile pour la question des épiceries, M. Arcan, il y a beaucoup de commerçants qui nous ont demandé de le faire. Faut le dire, là, parce qu'il y a des gens qui manquaient de personnel puis qui nous disaient pour que ça soit... On a besoin de relaxer nos gens, on a besoin de leur donner congé. Il y a beaucoup de commerçants qui nous l'ont demandé, puis on l'a fait pour 3 semaines. Ça, c'est le dernier dimanche qui s'en vient. Bon, ça, c'est la première chose. Sur la question du couvre-feu, quand on a vu les prévisions dont je vous parlais, là, hein, on a vu comment ça a changé si rapidement dans le mois de décembre. On ne reviendra pas là-dessus. C'est évident que pour nous, tout ce qu'on avait dans notre coffre à outils, on l'a pris. Est-ce qu'on a aimé ça? La réponse, c'est non. Mais je regarde aujourd'hui, regardez, on souhaite que le nombre de cas d'entrée, là, les entrées des hospitalisations, soit un point de cassure. Je ne sais pas si on l'est, mais on avait dit que 10 jours après le couvre-feu, c'est-à-dire qui a été mis en place le 30 décembre pour le 31, 10 jours après, c'est aujourd'hui, là. Alors, si on n'avait pas fait ça dans les 10 derniers jours, où est-ce qu'on serait aujourd'hui au lieu d'être à 2500 hôpitaux? Si quelqu'un a la réponse à ça, là, moi, je ne l'ai pas.
Okay,
je
sais
une chose. Mais non, mais je peux terminer, M. Arcand.
Oui.
Je vous dis juste que on a pris une mesure excessivement exceptionnelle qui ne faisait pas notre affaire. Mais où est-ce qu'on serait aujourd'hui si on ne l'avait pas fait? Si quelqu'un peut me répondre à ça, tant mieux.
Oui, mais avez-vous pensé à imposer le couvre-feu aux non-vaccinés seulement?
Oui, on y a pensé. On a même discuté longtemps parce que c'était des solutions qui étaient privilégiées parmi notre équipe. Mais comment voulez-vous, si vous avez toute la population qui peut, elle, être à l'extérieur, aller trouver comment se faire? Comment aurait pu se faire un couvre-feu pour les non-vaccinés? On en a discuté longuement, puis on s'est rendu compte que c'était difficilement opérable. Alors, on a dit, étant donné la situation critique, on a dit, on va le faire, puis je le répète, c'est la première mesure qu'on va enlever. Écoutez, on est le 10 janvier, là, il nous reste une semaine. On avait dit qu'on réévaluerait ce qu'on allait faire pour le 17 janvier. On a mis une date, là. Alors, on va regarder comment avancent les choses dans les prochains jours.
OK, mais je vais prendre l'expression d'Emmanuel Macron. Avez-vous dans votre coffre à outils des mesures pour écœurer les non-vaccinés?
sans le dire comme ça, même des fois, ça me le tente, parce que j'ai bien dit que je souhaitais que les non-vaccinés restent chez eux. Mais effectivement, regardez ce qu'on a fait avec certaines mesures. Là. Je pense, par exemple, à la SAQ.
Monsieur Dubé, là, je vous arrête. La SAQ, là, sérieusement, de donner un préavis aussi long pour dire aux gens, allez faire vos emplettes, trouvez-vous quelqu'un. Là. Il n'y a personne qui va se faire vacciner pour aller à la SAQ.
On est tous frustrés. Vous, le premier, moi, le deuxième, ou dans l'ordre inverse. Laissez-moi terminer sur la question que vous m'avez posée. Vous m'avez dit, est-ce que vous allez faire d'autres mesures pour les non-vaccinés? Je suis en train de vous répondre, comme pour la SAC, comme pour la SQDC, oui, il va y avoir d'autres mesures. Il faut les mettre en place. On va faire d'autres annonces cette semaine. Il va y avoir d'autres mesures pour les non-vaccinés.
Non, mais ma question, c'est que la SAQ, c'est pas une vraie mesure. Je m'excuse, là, ça change rien. Il y a pas... Trouvez-moi un Québécois qui va se faire vacciner pour aller à la SAQ.
Bien, écoutez, M. Arcand, je vous dis, depuis qu'on a fait cette annonce-là, j'ai triplé le nombre de premières doses à tous les jours. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Je ne sais pas. Mais ce qu'on a annoncé avec la SAQ, ce qu'on a annoncé avec la SQDC, c'est une tendance. On a dit, écoutez, le passeport vaccinal, son application, va être élargi. On vous donne deux exemples tout de suite. SQDC, SAQ, et il y aura d'autres mesures. Depuis qu'on a annoncé qu'il y aurait d'autres obligations, d'autres endroits où le passeport vaccinal serait exigé, c'est une ligne claire qu'on a annoncée. Puis on a dit, M. Arcand, que même on va demander la troisième dose pour qu'elle soit inclue. Alors, il y a une direction pour les non-vaccinés. Vous vous faites vacciner, vous ne pourrez pas sortir. C'est très clair.
Quand le ministre Jean-Yves Duclos dit la vaccination obligatoire, c'est un incontournable. Êtes-vous d'accord avec lui?
Ben écoutez, je pense qu'il s'est exprimé personnellement. Moi, je vais vous dire une chose. Je me suis promené là, pendant 10 jours en commission parlementaire pour faire la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé. Vous savez comment ça a été difficile. En ce moment, on a deux choix. Ou bien on fait la vaccination obligatoire, ou bien on demande le passeport vaccinal à plus d'endroits. C'est quoi la différence entre les deux? Moi, je vous dis, en ce moment, là, la route qu'on privilégie, c'est d'augmenter les endroits où on va demander le passeport vaccinal.
Est-ce que je me trompe si je dis qu'à Montréal, je voyais ça hier sur les réseaux sociaux, parmi les gens non vaccinés et qui se retrouvent à l'hôpital, là, c'est pas juste des militants anti-vax. On a beaucoup de gens qui, pour des raisons de barrières linguistiques, de culture, j'allais dire, attrapent pas le message, comprennent pas trop, réalisent pas. Donc, c'est pas des militants contre le vaccin, c'est des gens qu'on n'arrive pas à rejoindre. Est-ce que c'est vrai?
Oui, je pense qu'il y a encore un enjeu de communication, qu'il soit de langue, de culture, de religion. Ça fait longtemps qu'on le dit. Ce qui est malheureux, c'est que ces gens-là, de la famille, ça revient à votre autre question de tout à l'heure, c'est des gens qu'on finit par rejoindre dans leur quotidien. Quelqu'un là, qui n'avait pas compris ça, là, peu importe s'il n'écoute pas votre émission du matin ou qu'il ne lit pas les journaux ou qu'ils ne sont pas dans sa langue, peu importe. C'est des gens, en mettant les mesures pour les non-vaccinés, qu'on finit par rejoindre comme ça. Alors, voilà, c'est pour ça que notre approche, elle est de cette façon-là, d'étendre l'obligation du passeport vaccinal.
Est-ce que vous faites toujours confiance au docteur Arruda?
Oh, écoutez, je pense que la personnalisation du docteur Arruda sur l'excellent travail qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est une chose. Docteur Arruda, là, il trouve ça, comme plusieurs d'entre nous en ce moment, il trouve ça très, très difficile. Je pense que de personnaliser le cas de docteur Arruda, c'est le choix de certains. Docteur Arruda, je pense qu'il fait son possible. Ça fait 22 mois qu'il est sous le gun, comme on dit, là. C'est difficile pour le docteur Arruda, je peux vous le dire. Moi, je le fréquente plusieurs fois par semaine. C'est très difficile pour lui en ce moment-là.
Mais c'est pas juste un jugement sur ce qu'il fait depuis 2 ans. Là. Je pense des fois, tu as besoin de prendre une pause. Parfois, tu as besoin d'avoir des avis autres que ceux qu'on entend depuis 2 ans. C'est peut-être le moment de faire un changement.
Écoutez, faut juste pas oublier, M. Arcan, qu'on est tous des humains là-dedans. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Regardez, là, moi, en ce moment, là, je vais vous dire, j'ai vraiment 3 priorités. J'ai vraiment 3 priorités. La première, là, pour moi, là, c'est de m'entendre avec les syndicats pour qu'on puisse avoir des travailleurs additionnels. Il me manque 1000 lits. Ça veut dire que ça me prend 3 à 4 000 personnes qui rentrent d'ici une semaine. Ça, c'est ma priorité parce qu'en ce moment, il me manque 1000 lits pour faire face aux hospitalisations dans une semaine. Ça, c'est ma première priorité. La deuxième priorité, c'est de vacciner tout le monde. En ce moment, là, si j'avais une priorité à vous dire, à part celle que je viens de vous dire de m'entendre avec les syndicats, là, c'est de vacciner le plus de personnes possible. Puis c'est ça qu'on fait. Maintenant, comment on va faire pour que tout ça arrive dans le mois de janvier? Ben, écoutez, tout le monde travaille, puis on est là-dessus. Je veux vraiment que les gens comprennent qu'on ne peut pas tout faire en ce moment. Mais on fait une chose. On travaille sur ces 2 priorités-là. Ravoir du monde dans le réseau pour donner un coup de main à ceux qui sont là puis qui portent le flambeau depuis plusieurs mois. Mais aussi faire un effort de vaccination. On va étendre nos heures de vaccination. On est en train de tout faire ça. C'est là qu'on est en ce moment.
OK. Juste pour préciser davantage votre priorité en ce qui concerne les lits disponibles. Il y a l'enjeu de patients qui, par exemple, sont des gens qui ont été traités à l'hôpital, dont le traitement actif est terminé, qui ont la COVID, qu'on veut retourner dans des centres de soins de longue durée ou des RPA, là, des résidences, ouais. Et qu'on garde à l'hôpital puis qui occupent des lits qui ne devraient pas occuper. Là, c'est un vieux problème, mais qui prend encore plus de pertinence aujourd'hui. Avez-vous peur d'envoyer des patients vers les CHSLD pour pas revivre le drame de la première vague?
Mais on est vraiment dans un contexte différent de la première vague. On doit le faire en ce moment dans certains endroits, comme dans les Laurentides, on le fait. On a 2 choix avec ce qu'on appelle dans notre jargon, là, ça s'appelle des NSA, des soins alternatifs. Là. C'est des gens qu'on a fini de soigner, mais qui doivent aller ailleurs, soit dans un CHSLD ou retourner dans leur résidence. En ce moment, les retourner dans des CHSLD, ça peut se faire parce que toutes nos exigences en matière de contrôle des infections, on est vraiment meilleur de ce qu'on était dans la première vague. Donc, en autant qu'on respecte les conditions que ces gens-là aient passé un test, etc., on peut le faire. Alors, donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter. On n'est pas du tout dans le même...
OK, mais actuellement, là, il y a combien de lits là, occupés par des gens qui devraient être ailleurs, selon vous, dans le réseau?
Environ 600 lits.
Et donc, ces gens-là vont partir éventuellement, ils restent à l'hôpital?
Mais ça a toujours varié entre 300 et 1000 lits, ce qu'on appelle des NSA, là, des gens qu'on doit replacer une fois qu'ils sont guéris. C'est sûr qu'en ce moment, étant donné le haut volume d'hospitalisation qui rentre tous les jours, dont on discutait tout à l'heure, de 300-400 par jour, ben c'est évident qu'on en a plus maintenant. Okay? Donc, ce qu'on dit... c'est qu'il a fallu s'assurer, puis c'est ce qu'on a fait, que quand on les retourne en CHSLD, ils arrivent dans un endroit qui est correct pour eux. Et ça, on l'a fait. Alors, c'est pas un enjeu comme ça avait été dans la première vague.
OK.
Je sais pas si ça répond à votre question.
Absolument. Dernière question, un peu en marge de ça. Il y a des hôtels qui lèvent la main en disant, nous, on peut en prendre des gens peut-être sur des étages. Est-ce que c'est une option de transférer des patients COVID, les sortir de l'hôpital? Ils ont besoin d'une présence moins grande, là, de soins?
Ben voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a deux choix. On les envoie soit dans les CHSLD, ou ce qu'on appelle, ce que vous venez de dire, un hôtel, là, c'est un site alternatif. On a déjà des sites alternatifs. Les gens connaissent bien l'image du Lowe's, le Concorde, par exemple, à Québec, dans le temps de la première vague. Là, on est en train de faire des ententes avec des hôteliers. On en a déjà fait pour que lorsqu'on ne peut pas le faire dans un CHSLD, on puisse le faire dans ces sites alternatifs-là. La réponse est oui.
Merci, M. Dubé. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir. Christian Dubé, ministre de la Santé.
L'essentiel de Paul Arcand.
Venez d'entendre le ministre Christian Dubé. On va faire le point avec deux médecins ce matin sur, justement, le délestage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, puis en quoi ça vous concerne? Donc, des lits occupés par des patients qui ont la COVID, problème de personnel. Deux médecins, donc, Dr. Christian Carrier, qui est chef du service d'hémato-oncologie du CIUS Mauricie Centre du Québec. Dr. Carrier, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Et Dr. Serge Legault, qui est chirurgien et vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Dr. Legault, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Dr. Carrier, je commence avec vous, là. Quand on parle de délestage niveau 4, là, vous êtes en hémato-oncologie, Centre du Québec Mauricie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça?
Ben écoutez, j'ai parlé à plusieurs collègues aussi d'autres régions. Là, il faut comprendre que la situation est beaucoup plus grave que lors des autres vagues. On a plus de contagions, plus de patients immunosupprimés atteints, plus de personnel qui est absent, soit à cause d'infections, de contacts, là, d'où l'importance d'y ramener le plus vite possible. C'est un petit peu comme un feu de forêt, là. Puis les non-vaccinés servent un peu de bois sec, si on veut, pour entretenir la propagation puis le brasier, là. Nous, on essaye, dans le fond, de faire de la priorisation pour éviter les dommages irréversibles puis un peu limiter les dégâts. Là. Je peux vous donner, par exemple, l'exemple d'un patient avec un nodule pulmonaire, un cancer du poumon, petit cancer du poumon opérable, que normalement on enlèverait en chirurgie et qui, là, va être dirigé vers une radiothérapie ciblée là qui va nous permettre de le traiter sans avoir à l'hospitaliser puis à diminuer un petit peu les risques, là.
OK, mais
c'est un peu ça.
Je veux bien comprendre. Là. Ça veut dire, je suis votre patient, normalement, vous m'auriez opéré pour un nodule. Là, vous pouvez pas, vous passez à un plan B.
Oui, exactement. Il y a un certain compromis. Ces décisions-là sont prises en comité, en groupe de médecins spécialistes, puis les pour et les contre sont pesés, puis on s'adapte, puis il y a différentes situations où on va avoir des traitements alternatifs. Et évidemment, là, on parle pas de tout le dépistage puis toute l'investigation qui est mise sur le, si on veut, sur la touche pour un temps, puis qui va faire qu'on va avoir un rebond de diagnostic puis de maladies plus avancées, là, quand le système va reprendre, va récupérer, là.
OK. Docteur Legault, vous êtes chirurgien. Là, on vient de parler de cancer, d'oncologie. Pour ce qui est de d'autres types de chirurgie, c'est la même chose?
Oui, c'est la même chose. En fait, les chirurgies qu'on dit fonctionnelles, là, les problèmes orthopédiques, les problèmes de chirurgie plastique, name it, là, ces chirurgies-là sont presque toutes annulées. Lorsque le ministre parle de 50 à 20 %, là, je vous dirais que dans la majorité des régions, ça ressemble plus à 20 %. Donc, les cas urgents, semi-urgents. Le cas du docteur Carrier, du nodule pulmonaire, on va essayer de l'opérer. Si on n'a pas de place pour l'opérer, on va faire le traitement alternatif, le plan B. Il y a plusieurs exemples qui ont été vécus dans la première vague, qui sont identiques. Une patiente avec un petit cancer du sein va peut-être se faire voir offrir de l'hormonothérapie en attendant qu'on ait une place pour l'opérer. C'est pas l'idéal, mais c'est ça qu'on fait. Alors, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis ce qu'on a, M. Arcand, là, c'est pas grand-chose.
OK. Je vais essayer d'être clair, là, puis que ça soit aussi le plus clair possible pour les auditeurs, là. Si on se parle franchement, Dr. Legault, Dr. Carrier, là, je comprends qu'on manque de lits parce qu'il y a des patients à COVID qui les occupent. Je comprends aussi qu'il y a des gens qui ont été soignés, traités, qui devraient être envoyés au CHSLD, qui ne le sont pas. Christian Dubé parlait de 600 tantôt, parlait de négociations pour des chambres d'hôtel, là. Je voudrais avoir un peu votre lecture à vous de ce qui se passe, là. Combien y a-t-il trop de patients qui devraient pas être là? Il y a les COVID, on devrait sortir de l'hôpital puis les envoyer ailleurs. C'est quoi votre lecture, Dr. Legault, tiens?
Ben, c'est une combinaison de tout ça. Tu sais, les hôtels, L'avantage là de la quatrième, cinquième, sixième vague, là, c'est qu'on a vécu le même scénario. Donc, les hôtels, on a les contacts avec les hôteliers. Ça va être beaucoup moins difficile de faire des ententes. On n'a pas parlé des proches aidants. Est-ce que les proches aidants pourraient aller dans les hôtels aider les patients qui sont des niveaux de soins alternatifs, les fameux NSA? Présentement, la congestion du système, c'est vraiment à cause de ce nombre effarant-là de patients. Vous allez me dire que c'est un problème qui précédait la crise. Mais là, on n'est pas dans les analyses historiques, là. On essaie d'arroser le feu, là. Alors, toutes les solutions sont bonnes. Le système, là, il craque présentement. Ce qui se passe, M. Arcan, là, c'est très, très grave, là. Ça n'a pas de commune mesure avec la première vague. À la première vague, on s'est préparé en vidant les hôpitaux. Là, les hôpitaux sont pleins. C'est ça, la différence.
OK. Là, on ne sera pas politically correct ce matin, là, mais se peut-il que... Je sais pas, là, les exemples me semblent nombreux, là. Il y a comme un décalage entre ce que la santé publique décide puis ce qui se passe sur le terrain. Il y a plein de gens, là, des médecins, du personnel qui me disent, ça fait des semaines qu'on voit venir ça, là. Puis que là, la santé publique puis a l'air à attendre d'avoir toutes les données probantes pour en tirer une conclusion.
Est-ce que tu veux commenter, Christian?
Ben, écoutez, c'est mathématique, là. On dit qu'on cherche 1000 lits. Il y en a 600 qui sont des patients qui ont plus besoin du plateau technique de l'hôpital. Il faut, on peut rapidement, avec peu de moyens, là, déplacer ces patients-là. Puis on vient donner beaucoup d'air au réseau, là. Puis on comprend que l'encadrement des patients dans un milieu hospitalier, puis l'encadrement dans un lieu de soins alternatif, comme disait le ministre, c'est pas du tout la même chose. On a besoin d'encadrement par des aides-soignantes, par des agents de sécurité. On n'a pas besoin d'infirmières de soins intensifs. Donc, il y a un gain important, rapide, puis ce gain-là, il faudrait qu'il soit fait très, très rapidement dans les prochains jours, là. C'est vraiment urgent, là. Comme on dit, là, le char est dans le champ, là. L'autobus est dans le champ, là. C'est pas le temps de regarder la signalisation. C'est le temps d'agir, puis de bouger là-dessus rapidement. Puis ça, d'après moi, c'est un quick win, là, qui devrait être appliqué très, très rapidement, là.
OK, je reprends votre image. Vous êtes en train de me dire que la santé publique regarde l'ampleur de la courbe, fait des études, attend les données probantes, puis le char est dans le clos avec des blessés.
Ben écoutez, ouais. je veux pas bâcher la santé publique, mais disons que il faut qu'on prenne des décisions rapides, là, à ce niveau-là, puis il faut qu'on agisse. Puis les gens qui ont les moyens de prendre ces décisions-là doivent les prendre très rapidement. Là, c'est pas dans 2 semaines qu'on a besoin de ça, là, c'est maintenant.
Oui, mais si je peux me permettre,
allez-y.
Je m'excuse, M. Arcan. T'sais, les gens de santé publique, moi, je voudrais pas être dans leur position présentement. Il y a beaucoup de critiques, puis il y a beaucoup d'amertume. Ce que je peux vous dire, c'est que ces gens-là, d'habitude, ils sont habitués d'analyser la situation. Et puis, pour les côtoyer très régulièrement sur le comité directeur que préside Dr. O'Patterney, ces gens-là ont vraiment une préoccupation très, très, très grande d'être précis dans leurs recommandations. Le paradigme, là, il change. Là, le char est dans le champ, là, il faut aller le chercher, là. Donc, il faut que l'agilité soit augmentée pour prendre des décisions plus rapides, toujours avec la crainte de se tromper. C'est ça qui rend des fois les décisions difficiles en santé publique. C'est ça aussi qui fait que des fois les décisions changent. On a juste à penser aux tests rapides, etc. Mais c'est pas une critique, là. Là, présentement, il faut trouver des solutions rapidement. Le post-mortem, on le fera à la suite. Mais vous conviendrez tous que les gens de santé publique, ils sont là pour les bonnes raisons et puis ils font le meilleur travail possible.
En terminant, êtes-vous d'accord avec le Collège des médecins que l'heure est venue de prendre des mesures beaucoup plus strictes, beaucoup plus sévères, puis une forme de vaccination obligatoire là, pour les non-vaccinés? Docteur Carrier?
Écoutez, honnêtement, je pense pas que le salut vient de là. Là, on l'a vu en santé, comment on s'est cassé les dents là-dessus dans un groupe qui est hautement motivé, qui est très encadré, qui est éduqué. Là, je vois pas comment on va réussir ça à l'extérieur, mais des resserrements du passeport vaccinal, une application plus sévère du passeport vaccinal est probablement une solution qui m'apparaît plus pragmatique, là.
Docteur Legault.
Bon, sur le terrain, là, la grogne des équipes soignantes contre les non-vaccinés, elle est palpable. Vous avez fait jouer un clip de M. Charest, là. Il y a certains docteurs qui, lorsqu'ils vont soigner les patients, vont penser à ce clip-là, là, parce que la frustration, elle est très grande de voir un patient qui n'a pas respecté les règles prendre la place de quelqu'un qui a respecté les règles. En même temps, l'objectif de notre système de santé, c'est de soigner tout le monde sans discriminer. Mais je vous avoue que c'est de plus en plus difficile de se retenir. Il faut soigner ces gens-là, faut comprendre leurs objections, mais des fois, là, quand les soignants sont à bout de souffle, il y en a qui se disent qu'ils ont des limites.
Merci beaucoup à tous les deux, Dr. Christian Carrier, qui est chef du service d'hémato-oncologie au CIUS Mauricie, Centre du Québec, avec Dr. Serge Legault, chirurgien et vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est avec grand plaisir que nous accueillons ce matin Jean-François Lépine qui se joint à l'équipe pour parler de politique internationale, d'événements sur la scène du monde. Bonjour, bienvenue Jean-François.
Merci.
Vraiment content que tu sois là.
Vraiment content. On en parle depuis longtemps entre nous, mais
oui,
là ça se fait.
C'est ça qui est important. C'est, comme je disais hier, c'est un rêve qui est devenu réalité. parlons comme premier sujet ce matin de l'attaque du Capitole. Ça fait un an, on a vu cette attaque comme une forme, je dirais aussi, d'attaque contre la démocratie, contre le symbole de la démocratie aux États-Unis. Ça fait un an, il y a eu 5 morts, il y a une centaine de blessés. Et quand on regarde ce qui se dit depuis les derniers jours pour souligner cet anniversaire, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le décor. Est-ce que tu penses que la démocratie américaine est en danger?
Oui, je pense que oui, parce que d'abord, on a l'impression qu'on n'a pas tiré les leçons de ça quand on pense que 70 % des électeurs républicains aux États-Unis pensent encore que l'élection a été volée. Ça veut dire qu'il y a encore cette espèce de grand mythe créé de toutes pièces, hein, on le sait maintenant, par M. Trump et son entourage, et qui perdure aujourd'hui. Quand on voit aussi des chiffres qui disent qu'il y a à peine 55 % des Américains qui croient encore que le système démocratique aux États-Unis fonctionne. Donc, il y a un scepticisme là qui est très grand. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'un an après, là, on a encore cette animosité terrible entre les deux grands partis politiques aux États-Unis qui fait que ce pays-là a de la difficulté à fonctionner, d'où le scepticisme des gens.
Mais justement, là, ce sont des intérêts personnels. On est vraiment dans une bataille d'égo et de partis politiques au-delà des intérêts, je dirais, de la nation américaine. Là.
Et c'est ce qui fait, vous l'avez vu la semaine dernière, le président Biden, dans son discours très intéressant d'ailleurs au Capitole, très ferme à l'endroit de son ancien opposant, Donald Trump, qui n'a jamais nommé, hein, et dont il dit, et c'est ça qui est important, on n'a rien appris, il dit, on ne peut pas aimer son pays seulement quand on gagne des élections. Et ça, à mon avis, c'est la phrase clé. C'est-à-dire qu'il y a une telle partisanerie aux États-Unis actuellement qu'on ne peut plus faire la différence, qu'on ne peut plus faire de compromis. Et il y a ce qui m'a intéressé beaucoup dans les derniers événements, parce que moi, ça me fascine. Je suis un adepte de tout ce débat qui existe dans le monde entre la Chine et les États-Unis, entre les tenants de l'autocratie et les tenants de la démocratie, et toute cette histoire que les Chinois aiment bien entretenir, que la démocratie à l'occidentale est en train de tomber. Ben, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des choses vraiment sérieuses dans tout ça. Il y a 3 anciens généraux de l'armée américaine qui ont publié une lettre ouverte dans le Washington Post le 17 décembre dernier, où est-ce qu'ils disent, écoutez, ça vaut la peine de le lire, nous, anciens hauts gradés militaires, sommes de plus en plus préoccupés de ce qui pourrait se passer après les élections présidentielles de 2024, et par une situation chaotique qui pourrait s'installer au sein de nos forces armées et comporter un risque sévère pour les Américains. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une brisure au sein même du leadership militaire américain le long des lignes de partis républicaines et démocrates. Le potentiel, c'est ça qu'ils disent aussi, d'une rupture complète de la chaîne de commandement en fonction des lignes partisanes du haut jusqu'au bas de la structure militaire serait tragique advenant une nouvelle insurrection comme celle qu'il y a eu il y a un an. Ils parlent d'un exemple récent dans l'État de l'Oklahoma où le général en chef responsable de la garde nationale a refusé un ordre du président Biden qui demandait qu'on vaccine tous les militaires en disant, moi, mon patron, c'est le gouverneur républicain de l'État de l'Oklahoma. Alors, vous voyez un peu le danger de tout ça. Il dit, il faut absolument que l'administration actuelle contrôle la chaîne de commandement dans l'armée pour qu'on évite une situation qui pourrait mener à une guerre civile. On parle de guerre civile, là, c'est quand même énorme, mais c'est une réalité, c'est un signal d'alarme qui a été extrêmement important. Puis, on le voit aussi dans toutes les relations entre les partis politiques. Il y a des choses extrêmement graves qui se passent. Quand on pense que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les dirigeants du Parti républicain, les dirigeants eux-mêmes croient encore, ou en tout cas véhiculent, la fameuse thèse du complot et du vol de l'élection. Quand on voit que partout aux États-Unis, actuellement, ça se passe, les élus républicains essaient de voter ou de modifier les lois électorales pour tenter de limiter le droit de vote aux prochaines élections. Il y a des observateurs qui parlent d'un coup d'État légal qui pourrait se produire advenant une situation où, par exemple, les républicains verraient leurs appuis une solution défavorable, la possibilité de perdre les élections. Il y a même un élu en Arizona qui a dit, qui a proposé une motion pour que le Congrès de l'État soit le seul responsable de la désignation des élus à la prochaine élection présidentielle. Alors, vous voyez...
Mais les temps ont changé depuis Al Gore et sa défaite en 2000.
C'est ça qui est
fascinant. Par le biais de l'État de la Floride.
C'est ça. C'est ça qui est fascinant. Vous vous en souvenez, en 2000, Al Gore avait la majorité des voix après le résultat des élections, mais il ne manquait qu'un seul État pour désigner le vainqueur, c'était la Floride. Il a perdu par 537 voix après 36 jours de recomptage. La Cour suprême des États-Unis a dit « c'est assez, on donne la victoire à Bush ». Il n'y a pas eu de manifestation dans les rues, il n'y a eu rien. Aujourd'hui, là, on ne pourrait pas, même de la part des démocrates, avoir une attitude de tolérance comme celle-là, advenant une situation aussi dramatique que celle-là. Imaginez, M. Trump a imaginé cette histoire de complot alors qu'il avait 7 millions de voix dans les résultats de l'élection que M. Biden, alors qu'il contestait les élections et les fraudes électorales en Géorgie, en Arizona, alors que M. Biden avait déjà gagné suffisamment d'États pour être élu. Donc, c'est une situation extrêmement dangereuse.
Mais, et puis, je l'ai dit, Jean-François, il faut insister sur un élément qui est important parce qu'on a toujours l'impression qu'on a affaire à des espèces de hurluberlus de gens en marge de la société. Or, quand on fouille un peu, puis il y en a qui l'ont fait, là, on s'aperçoit que le profil, c'est rien de marginal.
Écoutez, quand on regarde justement, parce qu'il y en a qui l'ont fait, le profil des gens qui ont participé à l'insurrection, ceux qui ont été arrêtés, la majorité d'entre eux sont des chefs d'entreprise, des PDG, des cols blancs, des professionnels, des médecins, des avocats, des architectes. C'est pas l'espèce de personnage d'extrémiste complètement fou là. C'est des gens qui ont une place dans la société extrêmement importante et une influence importante. Donc c'est ça la grande question. Et d'ailleurs le chroniqueur du New York Times, Tom Friedman, qui est un ami, qui est un personnage que a été un de ceux qui récemment a donné un espèce de coup de sonde intéressant en disant, écoutez là. Qu'est-ce que fait dans tout ça la grande entreprise américaine? Parce qu'immédiatement après s'être étonné de l'insurrection il y a un an, les grandes corporations, Boeing, Apple, etc., etc., se sont mis à supporter financièrement, ont recommencé à supporter financièrement même les candidats complotistes du Parti républicain. Si, dit-il, les gens d'affaires cessaient de financer les complotistes, l'argent, c'est le nerf de la guerre en politique. Si ça cessait, peut-être qu'effectivement la société se réveillerait globalement. Donc, les entreprises ont un rôle extrêmement important à jouer dans cette situation.
Et en terminant, puisqu'on parle de démocratie, un petit coup d'œil vers le Brésil.
Ben, c'est ça, je parlais de démocratie à l'échelle de la planète et tout ça. Quand on pense qu'aux États-Unis, on se demande s'il y aurait un coup d'État la prochaine fois, peut-être. Écoutez, c'est beaucoup plus simple au Brésil. Le président Bolsonaro, qui est menacé dans les sondages par Lula da Silva, l'ancien président, a même évoqué l'été dernier, et puis il continue à laisser la rumeur perdurer, la possibilité que les élections ne soient pas tenues tout simplement en octobre prochain, comme elles sont prévues. Alors, c'est encore plus invraisemblable qu'un coup d'État. Il faut rappeler que le Brésil, la plus grande démocratie d'Amérique latine, a été sous le régime des militaires de 1964 à 85. Donc, c'est dangereux.
Jean-François, merci beaucoup. À la prochaine.
Merci.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.